En ce mercredi 2 mai, nous enregistrons cette émission mensuelle avec notre évêque, Monseigneur Marc Haillé, que nous n'avions pas interviewé depuis le mois de mars. Monseigneur Haillé, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes en compagnie de Violaine Ricourt-Dumas. Bonjour Violaine.
Bonjour.
Et cet entretien, comme d'habitude, maintenant est diffusé à la fois sur Radio La Pourdi Ratée en Pays Basque et sur Radio Présence Lourdes Pyrénées en Béarn et dans les Hautes-Pyrénées.
Alors, Monseigneur, nous sommes au moment où nous enregistrons cette émission entre les deux tours de l'élection présidentielle, un moment important pour notre pays. Alors, avec les évêques de France, vous aviez publié en amont, il y a plusieurs mois déjà, un texte qui invitait les catholiques à réfléchir à différents points d'attention. Mais plus récemment, vous avez insisté dans votre message pascal sur l'importance des principes non négociables. Alors, peut-être vous pourrez rappeler en quelques mots ces principes, mais finalement, aucun des candidats du second tour ne respecte intégralement ces principes. Donc, est-ce que cela signifie que les catholiques doivent nécessairement s'abstenir ou voter blanc?
Alors, il est évident que non. Quand j'ai rappelé ces principes non négociables, qui d'ailleurs font partie des points qui ont été listés par la note que vous avez indiquée de la commission permanente, du conseil permanent pardon, de la Conférence évêque de France, les élections, quel vote un vote pour quelle société, ces trois principes non négociables rappellent seulement le socle fondamental d'un ordre social juste et fraternel. C'est-à-dire le respect de la dignité de la personne humaine depuis sa conception jusqu'à sa mort naturelle, la famille fondée sur l'union stable d'un homme et d'une femme, et la liberté éducative des parents, non seulement de l'éducation de leurs enfants dans le cadre familial, mais aussi le choix de l'école qui convient pour éduquer leurs enfants selon les valeurs qu'ils ont choisies. J'ai seulement rappelé ces critères comme des critères qui éclairent un discernement, en m'empressant de préciser que un évêque n'a évidemment aucune consigne de vote à donner, ni avant le premier tour, ni avant le second tour, et je n'ai pas la naïveté de penser que aucun candidat puisse correspondre parfaitement à ces points non négociables dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui. Mais ça peut éclairer simplement un discernement pour poser un acte bon en soi, qui est de voter, bien sûr, et qui est un moyen qui nous est offert dans le cadre de la démocratie pour participer à la vie politique de notre pays, qui n'est pas le seul. Mais sans doute qu'en comparant des programmes, on pourra chacun en conscience décider de son vote pour l'un ou l'autre des candidats. Même c'est tout à fait possible que certains aient le désir de voter blanc, même si ça s'est pas comptabilisé, ce qui est peut-être d'ailleurs une injustice. Mais en tout cas, moi je n'appelle ni à voter pour l'un ni pour l'autre, ni à voter blanc. Je rappelle seulement des principes qui éclairent la conscience et ensuite libre à chacun de poser l'acte qui correspondra à son désir de voir le programme qui permettra un ordre juste, un ordre social juste, eh bien de s'établir progressivement.
Donc il n'y a pas de vote catholique. En fait, chaque catholique est libre en conscience de choisir après selon...
Il n'y a pas de vote catholique. D'ailleurs, il n'y a pas de parti catholique, comme vous le savez. Hein. Il y a seulement des critères de discernement pour chacun se constituer un jugement prudentiel dans une élection comme celle-là.
Monseigneur Haillé, nous allons revenir sur quelques événements de la vie de l'Église. Il y a eu d'abord, fin mars, l'Assemblée plénière des évêques à Lourdes.
Oui, donc nous sommes rassemblés pour notre session de printemps, si je puis dire, du 26 au 30 mars à Lourdes. Donc une session qui est plus courte que celle du mois de novembre, comme on le sait, où le menu était assez copieux et fort intéressant. Nous avons en particulier abordé la question de l'enseignement catholique, car vous savez que les évêques ont demandé au secrétariat général de l'enseignement catholique de reformuler, de refondre complètement le statut de l'enseignement catholique, pour mieux préserver encore, dans les faits, le caractère propre et le projet éducatif propre de nos établissements catholiques d'enseignement. Ce qui est frappant, c'est que les évêques ont pris très à cœur ce travail de refonte du statut d'enseignement catholique, avec plusieurs séances en assemblée plénière, en dialogue avec le secrétariat général de l'enseignement catholique, où les évêques ont émis un certain nombre d'avis, de souhaits concernant justement ce caractère propre, la finalité d'enseignement catholique, les moyens d'atteindre ces objectifs, de transmettre aussi la foi à un vaste public, puisque n'est pas remis en cause évidemment le fait que l'enseignement catholique doit être ouvert à tous, quelle que soit sa religion ou sa culture, mais avec un projet éducatif clair qui entre dans le cadre de l'évangélisation, qui est la mission première de l'Église. Et on est très frappé de voir combien les évêques s'engagent avec beaucoup de sérieux dans ce travail. D'ailleurs, la commission de rédaction comprend deux évêques qui ont été missionnés par la Conférence des évêques de France pour nous représenter dans ce travail rédactionnel. Nous avons abordé aussi la question de l'Internet, qui est un groupe de travail qui est présidé par le nouvel évêque de Tarbes-et-Lourdes, Monseigneur Nicolas Brouvet, Église et Internet, avec une communication d'un professeur de métaphysique, à la fois au séminaire de Versailles et aussi dans un établissement catholique d'enseignement à Versailles, qui nous a aidés à ressaisir les enjeux éthiques et anthropologiques de ces moyens nouveaux qui sont ceux de la génération numérique, hein, la génération Y, comme on dit aujourd'hui.
Donc Internet comme outil de communication.
Outil de communication et outil de formation, car vous savez que dans l'enseignement en particulier, le numérique est entré en force et fait partie des instruments privilégiés de l'enseignement lui-même. Alors jusqu'à déstabiliser des enseignants qui sont moins rompus à ces techniques, comme on le sait, et comme ça fait partie vraiment de la génération qui monte, eh bien on est obligé aussi de savoir les utiliser quand on est enseignant, mais savoir aussi que cet outil peut être au service du meilleur comme du pire. Et c'est pourquoi il faut essayer de décrypter un petit peu les enjeux anthropologiques que recèle ce genre de moyens techniques. Nous avons abordé aussi bien d'autres questions que je n'ai malheureusement plus en tête à l'heure où je vous parle, car beaucoup d'eau a coulé sous le pont depuis cette session.
Est-ce que vous avez évoqué le rapprochement avec les lefévristes qui depuis ont finalement donné une réponse à la demande de Benoît XVI? Vous aviez parlé de ça en conférence?
On en a peu parlé, justement, précisément parce que...
Vous attendiez la réponse?
On attendait la réponse et que, comme vous le savez, à l'heure actuelle, il y a eu une réponse en effet de Mgr Felet qui a été enregistrée par la commission Ecclesia Dei, et c'est-à-dire par la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui s'est contentée laconiquement de dire que désormais cette réponse serait soumise à l'examen de la Congrégation pour la doctrine de la foi et ensuite au jugement du Saint-Père. Mais pour l'instant, on n'en sait pas plus, et c'est la raison pour laquelle il n'est pas nécessaire de communiquer, puisqu'on dirait des choses qui ne sont pas. Ce qu'on peut espérer, c'est qu'en effet, le vœu du Saint-Père de procéder à cette réconciliation et à cette réintégration dans la pleine communion de cette partie des catholiques qui sont un peu en rébellion, eh bien, puisse se faire, hein, de la meilleure manière pour tous.
Monseigneur Hayé, lors justement de cette assemblée plénière des évêques, était précédée du rassemblement des églises diocésaines pour marquer le début, le 50e anniversaire du début du Concile Vatican II. Bon, vous-même, vous n'étiez pas présent puisque c'est l'abbé Biche qui vous représentait. Comment a été perçu par l'ensemble des évêques ce grand rassemblement
Alors, il y a toujours une séance d'actualité qui précède tous les débats qui font partie de l'ordre du jour de la conférence, de l'Assemblée plénière. Et en particulier, nous avons abordé évidemment ce bel événement du 50e anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II et ce colloque qui a quand même rassemblé 2500 personnes représentant de tous nos diocèses, une délégation chez nous qui était d'une vingtaine autour de l'abbé François Biche qui me représentait, moi étant en visite pastorale à ce moment-là, comme d'autres évêques qui n'étaient pas présents d'ailleurs, même si un bon nombre d'évêques, je crois 70, avaient pu participer à ce bel événement. 2500, c'était un peu symbolique puisque vous savez que le Concile a rassemblé près de 2500 évêques il y a 50 ans. Et c'était un événement qui se voulait célébratoire, avec des conférences magistrales de trois évêques pour donner le sens des grands documents du Concile, et puis aussi de nombreux témoignages de prêtres, de consacrés, de fidèles laïcs qui témoignaient justement de la manière dont le Concile Vatican II avait inspiré leur vie chrétienne depuis 50 ans.
Dans notre diocèse, quelque chose est prévu à l'automne pour marquer cet anniversaire?
Alors, il est évident que nous allons proposer non seulement de marquer l'anniversaire lui-même le jour même, le 11 octobre, et le lendemain, par deux célébrations eucharistiques qui auront lieu l'une à Bayonne, l'autre à Lescar, ou à Saint-Martin, je ne sais plus, enfin qu'importe, à Pau en tout cas, de manière à célébrer par l'Eucharistie, parce que le Concile, comme vous le savez, a été introduite par une célébration eucharistique solennelle, donc pour célébrer cet anniversaire, et qui inaugurera aussi un certain nombre de manifestations, de démarches, qui sont encore à construire avec les doyens, avec le conseil presbytéral, avec le conseil épiscopal, tout au long de l'année, qui sera une année de la foi, puisque le Saint-Père a promulgué une année de la foi, précisément pour célébrer ce 50e anniversaire du Concile, qui coïncidera aussi avec le 20e anniversaire de la publication du catéchisme de l'Église catholique, qui représente, comme le disait le bienheureux Jean-Paul II, un des fruits principaux du Concile Vatican II, et qui nous aidera aussi à réfléchir à la question de la nouvelle évangélisation pour transmettre la foi, qui est d'ailleurs le thème du synode des évêques qui aura lieu au moment de l'ouverture de cette année de la foi.
Tout étant lié, finalement, l'année de la foi, le cinquantenaire du Concile et la nouvelle évangélisation.
Voilà, parce que, comme on le sait, l'évangélisation, la mission d'annoncer l'Évangile à frais nouveaux à un monde dont le Concile a pris acte des changements substantiels, culturels, eh bien, est la mission, l'objectif premier du Concile Vatican II. Hein, comment l'Église, face à un monde qui s'est de plus en plus éloigné de l'Église, finalement, ben comment, à frais nouveaux, veut-elle proposer la foi à travers un dialogue et une annonce sur laquelle elle réfléchit sans cesse depuis 50 ans. Et c'est vrai que nous sommes à l'heure de la nouvelle évangélisation, c'est une manière de reprendre à frais nouveaux l'enseignement du Concile.
Alors plus récemment, le 29 avril, c'était la 49e journée mondiale de prière pour les vocations. Alors prière pour les vocations qui vous tient très à cœur dans notre diocèse. Il y a eu une caravane des vocations qui est passée dans le diocèse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi elle consiste?
Alors la caravane des vocations que nous avons inaugurée depuis la réouverture
du séminaire
et puis du séminaire consiste en un déplacement, une itinérance, on va dire, de cette petite communauté de jeunes qui discernent leur vocation ou qui commencent à se préparer au sacerdoce dans les paroisses qui les accueillent depuis le vendredi soir généralement jusqu'au dimanche après-midi, avec de multiples rencontres avec les prêtres, les fidèles, les jeunes, la connaissance aussi du terrain, hein, d'une paroisse. C'est comme une mini-visite pastorale qui est faite par les séminaristes, ce qui permet une mutuelle connaissance. À la fois ces jeunes rencontrent des prêtres qui sont fidèles au poste, hein, et qui répondent toujours généreusement à un appel qu'ils ont reçu il y a 30, 40, 50 et plus d'années. Donc c'est un beau témoignage dont ils ont besoin eux-mêmes, qui se posent la question de la vocation aujourd'hui. Et puis pour les prêtres et les fidèles, c'est voir qu'il existe des jeunes qui sont prêts à quitter qui un métier, qui des études, après parfois avoir un beau diplôme en poche, pour discerner une vocation sacerdotale et se mettre tout entier au service de l'Église dans la voie du sacerdoce. Donc ces caravanes des vocations sont à la fois une manière de donner une visibilité à la vocation sacerdotale en particulier, de sensibiliser les fidèles à l'importance de cette prière pour les vocations sacerdotales, qui est le moyen privilégié que Jésus nous donne pour assurer la relève des prêtres dans nos diocèses, et puis qui permet aussi aux séminaristes de mieux connaître le terrain pastoral dans lequel ils auront, s'il plaît à Dieu, à exercer leur ministère.
Pour toujours en lien avec les vocations, vous avez institué, vous avez ordonné un diacre en vue du sacerdoce, vous avez institué Amador Vicente au lectorat. Tous ces événements relancent aussi la pastorale des vocations dans le diocèse.
Et oui, c'est beau de voir l'évangile continue, hein, et que pendant que nous œuvrons pour prier pour les vocations sacerdotales, il y a déjà des fruits. Les fruits, ce sont les jeunes qui commencent à se mettre en route, et puis ce sont ceux qui arrivent au terme du chemin, ceux qui avancent aussi dans les ordres. Moi, je pense à Amador, qui est lui au séminaire d'Ars, en deuxième année de théologie, et qui a donc été institué lecteur à la cathédrale de Lescar, où il avait d'ailleurs effectué lui-même son stage pendant toute une année.
Vous pouvez nous rappeler ce que ça veut dire, le lectorat ?
Alors, le lectorat, je vais rappeler toutes les étapes. Après un premier temps de discernement, propédeutique, premier cycle, souvent un stage d'approfondissement, au cours de la première année de théologie, on est ce qu'on appelle admis comme candidat au sacerdoce. C'est un premier rite qui veut dire que l'Église prend en compte la vocation de ce jeune et lui donnera tous les moyens de pouvoir achever son discernement et sa formation. Ensuite, il y a deux étapes qu'on appelle les institutions, au ministère de lecteurs et d'acolytes, qui préparent aux ordres majeurs que sont le diaconat et le presbytérat ou le sacerdoce. Le lectorat, bien, c'est la mission officielle qui est donnée à ce jeune séminariste de proclamer la parole de Dieu, d'annoncer la parole de Dieu par toute sa vie, en particulier dans l'action liturgique, mais aussi par sa vie et aussi par ses premiers expériments pastoraux, et qui n'est pas sans lien avec cette première mission du prêtre, qui est précisément l'annonce et l'enseignement de la parole de Dieu. Le deuxième ministère sera l'acolyta, l'année suivante, qui habilite à servir de plus près le mystère de l'Eucharistie à l'autel, et en même temps à présider la prière commune, hein, la prière des chrétiens, et qui n'est pas sans lien évidemment avec la célébration de la messe, qui est le cœur même de la vie du prêtre. Ensuite, j'ai ordonné Augustin Meyong, qui est un jeune Camerounais, qui était en insertion pastorale depuis plus de 2 ans dans la paroisse Notre-Dame-des-Luis d'Arzac. C'est pourquoi son lieu d'insertion dans le diocèse, après toute sa formation précédente ailleurs, étant une paroisse, j'ai pensé souhaitable ou préférable de l'ordonner au sein de cette communauté qui l'a accompagné pendant ces 2 années. Et j'ordonnerai un deuxième diacre en vue du sacerdoce le 13 mai prochain à la cathédrale d'Oloron, pour la même raison, c'est que ce jeune, après avoir fait une formation ailleurs, eh bien, a poursuivi son approfondissement de sa vocation par une insertion pastorale dans cette paroisse de la Trinité d'Oloron-Oloron et de Saint-Jacques-du-Piémont, Gurmançon. C'est pourquoi il sera ordonné diacre à cet endroit.
Donc on peut faire une formation dans un séminaire et un stage dans un autre diocèse.
Tout à fait. Alors, quelquefois, nous avons des séminaristes qui sont formés en dehors du diocèse, comme Amador, qui est à Ars depuis le début de son séminaire, mais pour le diocèse de Bayonne, comme 2 autres sont en second cycle à Rome, pour le diocèse de Bayonne. D'autres ont commencé un cursus de formation dans un autre diocèse et ont opté pour un autre, pour des raisons XY, si je puis dire, qui sont évidemment discernées. Et à ce moment-là, l'insertion dans le diocèse nécessite un vrai stage, j'allais dire d'immersion complète, dans la vie pastorale du diocèse.
Monseigneur Hayé, cette année, pas d'ordination sacerdotale.
Pas d'ordination sacerdotale, mais une belle espérance pour l'année prochaine, puisque...
Nous avons 2 diacres.
2 diacres en vie du sacerdoce.
Parlons maintenant un peu de la quête pour la vie qui est organisée chaque année début juin. Ce sera cette année les 2 et 3 juin par les associations familiales catholiques. C'est une quête qui est parrainée par l'Académie diocésaine pour la vie.
Voilà, comme vous le savez, les évêques de France, à la demande du pape Jean-Paul II dans son encyclique « L'Évangile de la vie », avaient choisi comme journée nationale de prière pour la vie le dernier dimanche de mai, qui en France coïncide avec la fête des mères, ce qui est une très belle coïncidence. Et donc c'est pourquoi nous organisons chaque fois, pour sensibiliser aussi les fidèles à cette culture de la vie et à la nécessité de la promouvoir, à la dignité de la vie humaine depuis la conception jusqu'à la mort naturelle, nous organisons ce dimanche-là une quête pour la vie, mais aussi nous invitons à prier pour la vie et à soutenir toutes les initiatives, quelles qu'elles soient, qui essaient de promouvoir cette culture de la vie, hein, soit des maisons d'accueil maternel, soit des actions de sensibilisation ou de formation autour des questions de la vie. Souvent, depuis quelques années, cette journée, ce dimanche pour la vie, est précédée la veille, c'est vrai en Île-de-France, c'est vrai à Bordeaux, c'est vrai chez nous aussi, d'une veillée de prière pour la vie, qui est en général organisée par les associations familiales catholiques.
Ce qui sera le cas donc le 1er juin, je crois, veille de cette quête.
Voilà.
Alors, Monseigneur Hayet, on va passer aux événements de la vie de notre diocèse. Nous venons de passer le temps pascal. Pendant ce temps pascal, il y a eu une grande campagne du denier qui a eu lieu donc essentiellement à Pau et à Bayonne. Il y a eu des affiches, on vous a vu sur des affiches. On peut dire que ça a fait le buzz, comme on dit. On a vu aussi deux laïcs, une de Bayonne et un de Pau. Mais il y a eu aussi des tracts, des courriers, toute une campagne qui a parfois donné lieu à quelques critiques. Vous y avez répondu déjà. C'est vrai que les gens ont besoin de savoir combien coûte une telle campagne, à quoi cela sert. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, répondre à ces personnes qui sont en demande?
Bien sûr. Hein, comme vous savez, chaque année, ça c'est pas une nouveauté, cette année, nous organisons une campagne de collecte de fonds à l'occasion de la campagne du denier de l'Église. Comme chacun sait, l'Église ne vit d'aucune subvention qui lui viendrait du Vatican ou de l'État, encore moins depuis la loi de séparation des Églises et de l'État. Donc elle ne vit que de la générosité des fidèles, des dons des fidèles. Comme on le sait, les fidèles sont traditionnellement généreux et savent que la vie de l'Église, la subsistance des prêtres, aussi aujourd'hui des laïcs que nous sommes obligés d'employer pour assurer notre mission, c'est vrai pour des tâches administratives, mais c'est vrai aussi pour des tâches pastorales aujourd'hui, qui ont un coût supérieur encore au traitement des prêtres. Tout ça, les fidèles sont sensibilisés et savent que pour que l'Église ait les moyens de sa mission, elle a besoin de leur générosité. Mais ça, c'est depuis la séparation des Églises et de l'État. On voit aussi que nos communautés vieillissent, que nos fidèles traditionnels généreux qui donnent vieillissent aussi, et au bout de la chaîne disparaissent, et que parfois les plus jeunes générations, même quand elles se sentent concernées par la vie de l'Église, de près ou de loin, ne sont pas forcément sensibilisées à cette nécessité d'aider l'Église à avoir les moyens de sa mission. C'est pourquoi chaque année, depuis des années, on organise une campagne qui a toujours un coût. Et comme la plupart des diocèses, nous faisons appel maintenant à des agences de communication qui nous aident à professionnaliser évidemment ce genre de campagne. Pourquoi ? Parce que nous avons un objectif qui est de toucher de nouveaux donateurs. Ce que j'appelle un nouveau donateur, c'est pas seulement quelqu'un qui crache au bassinet, comme on penserait vulgairement, comme on dirait vulgairement, mais c'est quelqu'un qui s'intéresse à la vie de l'Église, qui sait avoir besoin de cette mission que l'Église accomplit auprès de tous, qui sait avoir besoin de cet évangile que l'Église a pour mission d'annoncer et qu'elle décline de multiples manières, à travers la pastorale sacramentelle et liturgique, mais aussi à travers des œuvres d'éducation, de formation, dans le cadre de l'aumônerie d'innocement public, de l'aumônerie d'innocement catholique, des groupes de jeunes, auprès des plus pauvres et des plus déshérités, la pastorale du deuil, la pastorale des personnes âgées, enfin vous voyez, des malades, toutes sortes de missions par lesquelles l'Église s'acquitte de sa première mission, qui est d'annoncer l'Évangile. Beaucoup de Français, de nos contemporains, se déclarent encore catholiques. Beaucoup savent recourir à la vie de l'Église, parce qu'elles savent que l'Église, à des moments clés de leur existence, comme la naissance, comme le mariage, comme les obsèques, ô combien, donne un vrai sens, par l'annonce de l'Évangile, à leur vie. Et pour les atteindre, il faut trouver des moyens qui les rejoignent, j'allais dire de manière plus visible, sur la place publique, disons-le. D'où l'idée cette année d'avoir ajouté aux moyens habituels qui nous sont proposés par les agences de communication, que sont des mailings ciblés, que sont les fameuses enveloppes que nous distribuons largement, qui ont évidemment un coût. Nous avons eu l'idée d'une campagne d'affichage qui donne une plus grande visibilité publique, d'abord à la mission de l'Église, à ce que l'Église peut apporter au monde d'aujourd'hui, et ensuite à ce que l'on peut apporter à l'Église, qui ne se solde pas seulement en termes financiers, même si c'est aussi un moyen qui n'est pas seulement de bonne guerre, mais qui est inscrit dans l'Évangile et dans la vie de l'Église depuis l'origine, de sensibiliser les gens qui savent recourir à l'Église, même occasionnellement, aux besoins de la mission. Alors le coût, jusqu'à présent, la campagne coûtait...
Il y a un pourcentage, un pourcentage par rapport au montant du denier, c'est cela?
Le pourcentage, si vous voulez, est de 2,5% à 3% du montant global du revenu du denier. C'est vrai cette année que la campagne d'affichage en 4 par 3 pendant 15 jours dans les deux agglomérations du BAB pour la côte basque et de Pau, avec un site internet ciblé qui rejoint beaucoup plus de personnes aujourd'hui, et quelques clips vidéo qui sont visibles et disponibles sur ce site, a coûté un peu plus cher. Mais bon, ça va coûter 70 000 euros en tout.
Donc c'est en tout, ce ne sont pas que les affiches.
Bien sûr qu'il ne s'agit pas seulement des affiches et du site internet, ça sera 15 000 euros de plus, si vous voulez. Hein. 2,5% à 3%. Quand vous savez que le CCFD dépense pour ses campagnes de collecte de fonds 6%, 6,5% de son montant global, ce qui doit être à peu près 3 500 000 euros, vous voyez, nous sommes dans une fourchette basse. Et personne ne s'en émeut, parce que ça fait partie des lois, je dirais, de la communication, qui sont appelées à rapporter davantage. Hein, vous savez que, grâce à cette agence de communication, nous avons enrayé la décroissance structurelle du denier depuis plusieurs années, en 2011, avec même une augmentation de 3,73% du montant global, avec 1100 donateurs de plus. Donc je pense que ces moyens qui nous sont inspirés par ce genre d'agence de communication, qui d'ailleurs travaille avec 15 diocèses et aussi des grandes communautés comme la communauté de l'Emmanuel, eh bien, ne sont pas dissonants par rapport à la mission d'annoncer l'Évangile.
Monseigneur Haillé, je me fais un peu l'écho aussi de certaines réactions. Depuis que vous êtes là, vous demandez régulièrement de l'argent. Comme votre prédécesseur d'ailleurs pour le denier de l'Église. Mais c'est vrai que vous avez mis en place aussi d'autres campagnes d'appel aux dons, que ce soit pour le séminaire ou pour d'autres réalités pastorales de notre diocèse. Par contre, on a l'impression que vous êtes peut-être moins enclin à rendre des comptes. Est-ce que vous publierez un jour les comptes de l'association diocésaine ? Depuis que vous êtes là, aucun compte n'est publié.
Alors, tous les comptes sont disponibles, comme vous le savez. Tous les comptes sont disponibles à tous sur le site du journal officiel. Ça, c'est une chose qu'il faut savoir. Ensuite, les comptes sont publiés intégralement à l'Assemblée générale de l'Association diocésaine chaque année, donc toujours disponibles. Et donc là, je pense que les secrétaires administratifs, laïcs et prêtres qui font partie de l'Association diocésaine doivent sûrement prendre des notes et rendre compte dans leur doyenné des comptes du diocèse. Et certainement, en effet, qu'il est très important de le faire de manière plus habituelle, et on a bien l'intention de le faire par le biais de la revue diocésaine. Hein. Il y a peut-être un petit retard à le faire, puisque ça, comme vous le savez, la revue diocésaine a été aussi complètement modifiée depuis 2 ans, et c'est une chose qui se fera en plus, hein, pour communiquer plus largement. Mais les moyens de communication existent, et les comptes sont, de fait, toujours accessibles.
Vous sentez dans votre diocèse un soutien vraiment des donateurs par rapport à tout ce que vous essayez de mettre en œuvre au niveau de la pastorale ?
Alors, toutes ces collectes que nous avons ajoutées à la collecte du denier de l'Église n'ont pas fait de tort au denier de l'Église, puisque je vous dis qu'il y a une augmentation, et ont fait augmenter depuis 3 ans de 7% l'ensemble des recettes du diocèse. Donc ça veut dire, je pense que ça signifie quand même que les fidèles s'intéressent aux projets qui sont à la clé de ces campagnes de dons. Même si il est évident qu'il y a des critiques qui sont bonnes à entendre, d'ailleurs, hein, je les entends, et avec mes collaborateurs, aussi bien au niveau de la communication que du conseil économique, que du conseil épiscopal, nous en prenons acte et nous cherchons à trouver des moyens de rejoindre tout le monde. Mais vous savez bien qu'aucune initiative ne peut jamais recueillir l'unanimité. Même si, à travers cette campagne du denier, j'ai eu aussi beaucoup de retours positifs, alors là, peut-être en dehors de l'Église en particulier, d'élus, de gens qui sont dans les entreprises, je pense à l'agence de communication de La Poste qui est venue spécialement me voir pour me dire que ça les avait beaucoup intéressés, qu'ils allaient même utiliser cette campagne de presse comme un cas d'école pour leur session nationale. Donc je pense qu'il y a aussi, dans le monde qui est un peu périphérique à nos communautés chrétiennes, un intérêt pour cette campagne qui a été l'objet aussi d'un intérêt pour l'Église. Une personne me disait, nous avons une grande rencontre, il y avait des élus, il y avait des gens qui étaient chrétiens, d'autres qui ne l'étaient pas, il y avait tous les âges, et votre campagne nous a permis de parler de l'Église pendant 1 heure. Donc je me dis, c'est ça l'impact, qui n'est évidemment pas quantifiable en termes de deniers, mais c'est aussi le but que nous poursuivions à travers cette campagne, c'est d'intéresser à l'Église, en ne faisant pas la dissociation entre l'Église et l'Évangile, parce qu'on m'a dit aussi, mais vous utilisez le terme « bonne nouvelle », pour nous la bonne nouvelle, c'est l'annonce du Christ, et c'est évidemment dans ce sens-là que c'est utilisé dans cette campagne, les moyens que nous cherchons à acquérir, en sollicitant la générosité des fidèles, sont ordonnés à une seule chose, c'est d'assumer notre mission qui est d'annoncer l'Évangile, qui veut dire « bonne nouvelle ».
Pour le carême, Monseigneur Haillé, vous aviez invité le président du conseil pontifical Coronum. Alors un mot sur cette venue du cardinal Sarah dans notre diocèse, à la fois à Bayonne pour la Saint-Léon, mais aussi qui est venu prêcher une retraite pour les prêtres.
Voilà, alors c'était un très grand moment, je crois, dans la vie de notre diocèse, que la venue de ce cardinal Robert Sarah, qui, avant d'être le président du conseil pontifical Coronum, c'est-à-dire chargé, j'allais dire, de la diaconie et de la solidarité au niveau de l'Église universelle, a été le secrétaire de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, donc en charge de toutes les terres traditionnelles de mission, c'est-à-dire l'Afrique, l'Asie, une partie de l'Amérique latine, une partie aussi de l'Amérique du Nord, et qui avant a été archevêque de Conakry en Guinée pendant 22 ans. Il a été évêque dans une situation très difficile de son pays, puisque c'était la dictature communiste de Sékou Touré. Son prédécesseur, qui l'avait ordonné prêtre, il était d'ailleurs le dernier prêtre ordonné par son prédécesseur, Monsieur Chindimbo, avait passé 9 ans en captivité dans les geôles de bambou de Sékou Touré. Et il a été nommé évêque, lui, à 34 ans. Voyez, donc il a une longue expérience de l'épiscopat. Et c'est un homme qui est très dont la vie intérieure est palpable, qui a un rayonnement spirituel personnel assez hors du commun. Et j'étais heureux de pouvoir l'inviter non seulement à présider la fête de la Saint-Léon, qui est la fête patronale de Bayonne, mais aussi pour prêcher la retraite aux prêtres. D'ailleurs, les prêtres ne sont pas trompés, puisque nous avions 46 prêtres du diocèse, presque une quarantaine des diocèses limitrophes que j'avais aussi invités à cette retraite, donc 80 prêtres qui ont pu bénéficier d'une retraite de très grande qualité, où il nous a permis d'aller tous au cœur même de notre vie sacerdotale, et je crois que ça a beaucoup impressionné les prêtres qui ont participé.
Quel est le message qu'a délivré le cardinal Sarah aux prêtres et à la fois à tous les baptisés?
Alors je crois que c'est l'importance de revenir à la vie intérieure, de revenir à la source de notre foi et de notre mission, qui est cette relation d'amitié personnelle avec le Christ. Il a beaucoup insisté sur l'amour de Dieu, l'amour tangible de Dieu qui s'exprime dans le mystère du Christ, et que le Christ est vivant pour nous communiquer cet amour, afin que nous-mêmes, nous soyons capables de rayonner cet amour autour de nous.
Monseigneur Haillé, pour terminer sur ce temps pascal, vous avez baptisé et confirmé, je crois, des adultes la nuit de Pâques. Combien ont été baptisés, confirmés ?
Notre diocèse est un diocèse de vieille chrétienté, donc il y a peut-être moins d'adultes qui demandent le baptême qu'ailleurs. Vous savez qu'en France, il y avait 3000 adultes qui ont été baptisés, confirmés et fait leur première communion dans la nuit pascale. Dans notre diocèse, il y en avait une dizaine, et moi-même j'ai baptisé une jeune étudiante à la cathédrale de Bayonne au cours de la vigile pascale avec 3 enfants en âge scolaire. Il y a aussi pas mal d'enfants en âge scolaire qui ont été baptisés dans diverses paroisses.
Monseigneur Haillé, parlons maintenant des jeunes dans le diocèse. Il y a eu 2 rassemblements, un pour les 4e, 3e à Salis de Béarn le 10 mars, un autre pour les plus âgés de nos jeunes à l'occasion de la 27e journée mondiale de la jeunesse à Baïgorry. C'est des temps forts pour un évêque de rencontrer tous ces jeunes.
Et oui, bien sûr que ça correspond évidemment à la priorité pastorale, ou la priorité que j'ai donnée à la pastorale des jeunes, en donnant d'abord des prêtres de qualité, une équipe dont qui se sont entourés d'une équipe de qualité, de laïcs très engagés dans la pastorale des jeunes, et qui en effet font beaucoup pour dynamiser cette pastorale des jeunes dans le diocèse, à la suite de ce grand temps fort des JMJ dont nous vivons encore aujourd'hui, évidemment, et en vue des prochaines JMJ qui auront lieu à Rio de Janeiro l'année prochaine, cette dynamique est entretenue et promue, je dirais, grâce à ces temps forts, ces rassemblements de jeunes qui ponctuent notre année. Alors, les 4e, 3e, que nous avons réintégrés dans le pastoral des jeunes depuis un peu plus d'un an, qui était à peu près 300 hein, à Salis de Béarn, pour se réunir autour du thème qui est tout à fait convenant à Salis, puisqu'il s'agissait de la
part de
Jésus. Vous êtes le sel de la terre, hein, vous êtes la lumière du monde. Et puis les lycéens, les étudiants, pour la JMJ qui se fait cette année dans le diocèse, donc à la Pentecôte, qui était le jour, au rameau, qui est le jour choisi par le bienheureux Jean-Paul II. Ça se passait à Saint-Étienne de Baïgorry. Alors, l'avantage, si vous voulez, c'est qu'il y a aussi une caravane des JMJ dans le diocèse.
Ça n'est pas toujours au même endroit.
Pas toujours au même endroit. On alterne entre le Pays Basque et le Béarn. On alterne aussi entre les agglomérations et les zones plus rurales. Cette année, c'est le doyenné de Galassie-Baïgorry qui nous a accueillis donc à Saint-Étienne de Baïgorry, et toute l'organisation étant montée par les jeunes de Baïgorry. Alors c'est évidemment un temps fort pour ces jeunes d'accueillir des jeunes de tout le diocèse. Donc alors, il y a à peu près 200 jeunes là.
Le thème c'était Plates à la joie. Vous avez senti les fruits des JMJ de Madrid dans cette joie des jeunes rassemblés à Baïgorry?
Oui, on sent bien en effet que les jeunes vivent encore de cette dynamique. Et nous avions invité un grand témoin qui est le responsable de l'Arche d'Agen et qui a raconté sa propre conversion lui-même jusqu'à s'occuper aujourd'hui et vivre plus exactement, plus que s'occuper, vivre avec des personnes handicapées trisomiques. Et il a manifesté ainsi comment c'était sa joie qui lui avait été d'une certaine manière inspirée par sa rencontre avec le Seigneur, que de vivre avec des personnes qui rayonnaient la joie malgré leur handicap.
L'an dernier, c'était le père René Luc, cette année donc Robin Sykes, le responsable de l'Arche. C'est important d'avoir des témoignages pour les jeunes. Vous pensez que ça leur parle plus?
C'est toujours dynamisant, à condition que ces grands témoins puissent leur montrer que leur propre témoignage est basé sur une vie très ordinaire.
Voilà, tout le monde n'est pas appelé à vivre comme Robin Sykes.
Des événements très extraordinaires qui ont été souvent la cause de leur conversion. Et donc, c'est un beau témoignage pour montrer que Dieu agit hein, dans la vie d'un homme ou d'une femme de manière tout à fait inattendue et parfois complètement disproportionnée par rapport à la manière dont il vivait. Donc, c'est important qu'il puisse saisir de manière sensible et tangible l'action de Dieu hein, dans la vie d'un homme ou d'une femme. C'est important aussi qu'il puisse comprendre que Dieu agit dans toutes nos vies de manière très ordinaire. Et je crois que ces grands témoins montrent à la fois l'extraordinaire de leur rencontre avec le Seigneur, qui montre sa présence à tous, et en même temps montrent comment le Seigneur les rejoint à travers des choses très quotidiennes de leur vie.
Alors le 25 avril dernier, vous avez béni les nouveaux locaux du Secours catholique, qui est maintenant une délégation des pays de la Dour, donc il y a eu un regroupement de délégations. Je crois qu'il y avait de nombreux élus présents, et puis des permanents et des bénévoles. Quel élan avez-vous voulu donner à cette nouvelle délégation du Secours catholique?
Alors moi, je n'ai fait que répondre à une invitation. Le Secours catholique fait partie évidemment de notre vie ecclésiale, hein, comme vous le savez, qui a pour but, comme disait Mgr Jean Rodin, non pas d'organiser la charité, mais de faire que la charité s'organise de manière concrète au service des autres. Il y a eu une restructuration au niveau national du Secours catholique qui a réduit la voilure des délégations en les regroupant. Donc c'est le fruit chez nous du regroupement de 3 délégations, celle de Bayonne, celle de Pau et celle de Dax, donc 2 départements, dont le siège d'un commun accord a été fixé à Bayonne, avec un seul délégué pour l'ensemble, de manière à ce qu'il y ait plus d'animateurs sur le terrain. C'est en tout cas le but de cette réorganisation, que l'on peut, avec laquelle on peut être d'accord ou non. Mais nous prenons acte de cette réorganisation pour le meilleur. Et donc ce quartier général de Secours catholique a été inauguré le 25 avril, en effet, par ces nouveaux locaux d'Anglette. Et ils m'ont demandé, de manière très significative, de venir bénir ces locaux, de manière à bien situer cette œuvre de solidarité au cœur de la mission de l'Église.
Monseigneur Rayet, vous poursuivez vos visites pastorales dans les différentes paroisses du diocèse, tant en Pays Basque qu'en Béarn. Nous enregistrons, je le rappelle, cette émission le 2 mai. Le 5 mai, vous aurez une visite pastorale un peu particulière sur la paroisse Notre-Dame du Rocher à Biarritz. Il va y avoir un grand chambardement. Est-ce que c'est ce mot que l'on doit utiliser pour les prêtres qui vont arriver comme curés à Biarritz.
Tout changement de curé est un grand chambardement hein, pour beaucoup de fidèles qui voient leur curé partir et qui voient un inconnu arriver. Hein. Là, c'est encore peut-être un peu plus parce que il s'agit pas seulement d'un curé qui change, mais d'une communauté qui vient. Ceci dit, pour remplacer, si je puis dire, même si les prêtres sont toujours irremplaçables, mais pour succéder à une équipe qui a été constituée de 4 prêtres, 3 curés in solidum et un prêtre au service des jeunes. Comme vous le savez, le prêtre qui était au service des jeunes, le père Rémi Galvan, après 9 ans de présence à Biarritz au service des jeunes, m'avait demandé de faire une expérience Fidei Donum, et je crois que c'était important que notre église soit encore capable d'offrir à des églises sœurs une vraie coopération missionnaire. Il n'a pas été remplacé. Et les 2 curés in solidum résidant à Saint-Charles et à Saint-Joseph, l'un malheureusement nous a quittés brutalement, donc il est décédé il y a 2 ans, et l'autre, pour des raisons de santé, a demandé à intégrer un ministère plus paisible et moins prenant. Ceci dit, ça veut dire que ces prêtres n'ont pas été remplacés, car je n'ai pas actuellement dans le diocèse de force capable de remplacer des prêtres actifs, même si heureusement il y a à Biarritz depuis toujours des prêtres auxiliaires, des prêtres âgés, qui rendent un fier service et qui continueront d'ailleurs à le faire dans les années qui viennent. Donc il a fallu, ça, j'allais dire, c'est un travail de ressources humaines qui est longuement réfléchi au niveau du diocèse, au niveau du conseil épiscopal, et depuis, bien sûr, en amont. Et comme je ne m'en étais jamais caché auprès du diocèse que pour assurer l'avenir, car il y a une logique arithmétique qui n'est pas en notre faveur, il nous faudra quand même non seulement d'abord relancer la passoire des vocations, mais aussi faire venir des forces qui viennent de l'extérieur. Les forces qui viennent de l'extérieur, ce sont essentiellement des prêtres Fidei Donum, qui peuvent venir de pays lointains, avec une culture évidemment très différente, et pour un temps donné, et ce peut être aussi des communautés, pas des prêtres diocésains jeunes qui sont dans les diocèses, parce que je crois qu'ils en ont aussi beaucoup besoin, mais des communautés qui sont disponibles et qui peuvent répondre à des appels dans les diocèses. J'avais d'ailleurs, il y a un an, présenté au conseil presbytéral la communauté Saint-Martin, d'où je suis, c'est vrai, moi-même issu, c'est pourquoi je la connais bien, de manière à ce qu'ils puissent présenter en vue d'une implantation qui n'était évidemment pas encore décidée. Et il s'est avéré en effet que les circonstances ont voulu que ce soit plutôt à Biarritz que cette communauté puisse être implantée. Et c'est pourquoi j'ai demandé en effet au père Michel Garat, qui a bien œuvré et dans des conditions que je rappelais précédemment pas forcément faciles, en étant un peu moins entouré de prêtres, même si ça a permis aux laïcs de prendre de vraies responsabilités dans cette paroisse, et j'espère qu'ils pourront continuer à donner leur disponibilité aux prêtres qui arrivent, qui en auront en tout cas beaucoup besoin. J'ai demandé au père Michel Garat, après 7 ans de présence, de prendre la responsabilité d'une paroisse très importante, qui est la paroisse de Saint-Vincent-de-Paul sur la rive droite de Bayonne, où le curé lui-même avait demandé à prendre une nouvelle mission. Où il va d'ailleurs trouver des prêtres vaillants, qui sont là depuis 4 ans ou 1 an et demi, qui constitueront une belle équipe de prêtres pour relever des défis missionnaires très importants sur ces rives droites de Bayonne. Voilà. Donc c'est à Biarritz, en effet, que la communauté Saint-Martin, 3 prêtres pour l'instant, vont arriver, qui prendront la place finalement de 3 ou 4 prêtres qui ont changé d'affectation.
Quelle est la lettre de mission que vous confiez à ces prêtres ? Est-ce que vous leur demandez de s'insérer dans la pastorale diocésaine ou est-ce qu'ils mèneront une pastorale complètement à part de ce que font les prêtres diocésains dans les autres paroisses?
Alors comme l'expérience le prouve, la communauté Saint-Martin est actuellement dans 10 diocèses en France, d'ailleurs très diversifiés, dans des zones rurales ou dans des zones urbaines. Il y a d'ailleurs une implantation qui se fera à Lyon en même temps qu'à Biarritz en septembre prochain. Comme l'expérience le prouve, les prêtres de côté Saint-Martin n'ont pas d'autre ambition que de répondre aux missions diocésaines qui leur sont confiées. Donc de s'insérer complètement dans une pastorale diocésaine, avec leur style, c'est-à-dire leur vie communautaire, ça c'est évident, c'est un petit peu leur charisme que de vivre en communauté. Mais ils n'ont pas d'autre charisme que de vivre en communauté, le ministère apostolique, au service des diocèses, donc en s'insérant complètement dans la pastorale diocésaine. C'est de la raison pour laquelle ils vont prendre connaissance de ce qui se fait à Biarritz, et ils vont prendre connaissance de tous ceux qui œuvrent et qui sont mobilisés pour la mission, et ils vont évidemment être très heureux de pouvoir bénéficier de leur collaboration. Donc ils vont s'inscrire dans le projet diocésain, avec leur style, mais vous savez, chaque curé arrive avec son style. Alors leur style est un peu plus particulier, plus visible peut-être, mais il est surtout communautaire. C'est peut-être ça qui est la seule différence avec les prêtres diocésains, qui vivent en équipe, mais qui ne sont pas forcément tenus à une vie communautaire.
Le partenariat, la co-responsabilité avec les laïcs sera maintenue, c'est votre vœu ?
Mais elle sera maintenue, elle est évidente, ça fait partie de la vie d'église. Moi j'étais curé de paroisse avec six confrères de la communauté Saint-Martin. J'avais un conseil pastoral de 24 membres, dont 12, j'avais procédé à l'élection de 12 parmi les membres. Nous avions des laïcs très engagés dans tous les domaines de la mission, et je peux vous dire que la collaboration avec les laïcs fait partie intégrante de notre ministère sacerdotal, d'abord parce que c'est la vie de l'Église qui l'impose, comme je l'ai toujours dit. Les prêtres ne sont pas là pour... les laïcs ne sont pas là pour remplacer les prêtres. C'est pourquoi quand on dit qu'il va y avoir une communauté de prêtres, ça veut dire que les laïcs seront moins actifs. Non. Plus il y a de prêtres, plus les actifs doivent l'être. Les laïcs ne sont pas engagés dans la mission de l'Église. D'abord la mission ad extra et aussi dans des tâches intra-ecclésiales, dans un second temps, non pas parce qu'on manque de prêtres, mais parce que c'est inscrit dans la grâce du baptême et de la confirmation. C'est leur manière de participer pleinement au sacerdoce du Christ. On appelle même cela le sacerdoce commun des fidèles.
Le latin sera de rigueur dans toutes les messes à Biarritz et le chant grégorien aussi.
Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Le latin et le grégorien sont une forme d'expression liturgique qui est celle du rite romain prévu par le Concile Vatican II et la réforme liturgique sur laquelle, c'est vrai, la communauté de Saint-Martin, pour sa vie communautaire, insiste beaucoup, comme un patrimoine qui fait partie de la tradition liturgique de l'Église aujourd'hui comme hier, mais il ne s'agit pas d'imposer plus de latin pour autant dans les messes paroissiales. Il y a des adaptations, il y aura une messe de communauté certainement où il y aura un peu plus de latin que grégorien, mais il ne faut pas tout de suite brandir des épouvantails, ou je ne pense pas qu'on dise épouvantaux, non, des épouvantails de ce style.
Alors, outre ce côté assez traditionnel que donne cette communauté, quel est son charisme? Vous en avez un petit peu parlé, mais par exemple, à Nail, la communauté des Béatitudes propose beaucoup de sessions pour les couples, pour la vie à deux. La communauté Saint-Martin, elle, est-ce qu'elle a un charisme particulier?
La vie fraternelle, entre prêtres, une vie communautaire forte, avec une vie de prière, une vie liturgique communautaire au sein d'une paroisse. Mais son charisme, c'est celui de tout prêtre diocésain, c'est celui d'être au service du peuple de Dieu dans les paroisses qui leur sont confiées.
Alors, Monseigneur Hayet, un mot sur les visites pastorales que vous avez faites récemment. Donc, du 21 au 25 mars, Saint-François-Xavier Navarinx et Saint-Jacques-des-Gaves-Sauveterre. Et du 11 avril et du 19 au 22 avril, Saint-Pierre-de-Nivadour, Saint-Pierre-d'Irube.
Alors là, je dois dire que, comme je l'ai écrit aux prêtres en leur annonçant les nominations qui vont être publiées dans le prochain numéro de notre Église, qui ne sont pas encore exhaustives de toutes les nominations de l'année prochaine, mais comme je l'ai dit, l'une des plus grandes joies de mon ministère épiscopal, c'est précisément ces visites pastorales. Je reviens toujours avec un grand sentiment de joie d'avoir rencontré des prêtres généreux, fidèles à leur mission, avec qui on partage beaucoup précisément sur les enjeux de la mission, et avec qui on découvre toutes les réalités pastorales et humaines d'une paroisse. Beaucoup de contacts, de partage aussi, avec beaucoup de laïcs engagés, et je peux vous dire que tout cela me réjouit et me donne à penser ce projet missionnaire que nous voulons mettre en place dans le diocèse avec tous, et on a des partages qui sont extrêmement constructifs avec les prêtres et les fidèles pour avancer concrètement dans ce projet missionnaire diocésain.
Une fois que vous aurez visité toutes les paroisses, vous recommencerez un tour ou ce sera fini?
Certainement, puisque l'évêque, comme vous le savez, est tenu de visiter son diocèse intégralement tous les 5 ans. C'est d'ailleurs pourquoi tous les 5 ans, il est appelé à Rome, à rendre compte de sa mission au cours d'une visite ad limina qui aura lieu pour les évêques de France, en tout cas pour les provinces dont font partie de la province de Bordeaux, qui aura lieu du 20 au 29 septembre prochain à Rome. Et donc, tous les 5 ans, il faudra que je trouve un moyen de visiter le diocèse. Alors, j'ai fait une première visite très approfondie. Peut-être que les années suivantes, les visites seront d'un autre type. Il faudra peut-être l'inventer pour le renouveler. Mais en tout cas, il est bien évident que je continuerai à visiter régulièrement le diocèse.
Monseigneur Haillé, 50 jours après Pâques, c'est la grande fête de Pentecôte. Et pour cette fête de Pentecôte, vous le dites vous-même, maintenant c'est une tradition, le rassemblement diocésain famille en fête. Alors pouvez-vous nous rappeler qui est concerné par ce rassemblement et quelle est la thématique que vous avez voulu lui adjoindre cette année?
Alors, famille en fête, c'est sûr que nous mettons l'accent sur la famille. Mais c'est la famille diocésaine en premier lieu. Ça veut dire que tous sont invités. D'ailleurs, nous avons tous un lien avec la famille, à la famille humaine ou à la famille diocésaine, quelle que soit notre génération, car famille en fait, ça veut dire que c'est un rassemblement intergénérationnel. Tourner autour de cette cellule fondamentale de l'Église et de la société qu'est la famille, bien sûr, mais c'est toute la famille diocésaine qui est invitée. D'ailleurs, il y a toujours un village de stand qui est proposé aux services, aux mouvements, aux communautés, pour donner une visibilité à ce qu'elles sont et à ce qu'elles font dans notre Église diocésaine. C'est au cours de cette célébration aussi, festive, puisque c'est la Pentecôte, qu'aura lieu la confirmation des adultes, comme chaque année, au cours de la célébration eucharistique de l'après-midi. Le thème qui a été choisi est un thème qui est en lien avec nos thèmes d'année, et c'est le thème de la réconciliation. Alors il y aura des témoignages de réconciliation en famille qui permettront à tous de réfléchir, de partager aussi sur ce grand thème qui est central de notre vie chrétienne et de notre vie ecclésiale.
Cette journée famille en fête qui aura lieu donc à la Pentecôte sera aussi l'occasion de clore cette grande enquête sur le kérigme que vous avez lancée. Où en est-on? Est-ce que vous avez eu beaucoup de réponses donc sur cette enquête qui concerne le mot de kérigme, donc la première annonce?
Alors on a un certain nombre de réponses, plus que je ne pensais. Il pourrait y en avoir encore d'autres. D'ailleurs, j'appelle encore les auditeurs, comme je l'ai dit aux prêtres, à continuer à envoyer leurs réponses. Ce qui est intéressant, c'est que les réponses sont très diversifiées. Ce sont des personnes, ce sont des familles, ce sont des communautés nouvelles, ce sont des mouvements d'action catholique, ce sont des services de pastorale liturgique et sacramentelle dans les paroisses, voyez. Donc c'est très diversifié, donc pour moi c'est une belle radioscopie, je vais dire, une radiographie peut-être, de la mission de première annonce dans notre diocèse. En tout cas, ça veut donc dire que le temps est venu, comme je l'avais annoncé dans ma lettre pastorale, au terme, quasiment au terme de cette enquête sur le kérigme, de constituer le fameux observatoire de la mission, qui sera ce groupe un peu missionnaire dans le diocèse, composé de prêtres, représentants de communautés nouvelles, de consacrés, de fidèles laïcs, engagés dans la pastorale des jeunes, dans la pastorale tout court, pour être une sorte de force de proposition missionnaire, pour concrétiser un peu cette première annonce, en particulier dans les paroisses. Ce ne sera pas sans lien avec la réflexion qui se mène à l'occasion des visites pastorales, en lien évidemment avec la réflexion du Conseil presbytéral, du Conseil épiscopal, qui sont des instances de communion, et en lien aussi avec un Conseil pastoral diocésain. Le moment me semble venu, en effet, de constituer ce Conseil pastoral diocésain, qui, en lien avec l'observatoire de la mission, aura pour but de réfléchir à cette mise en œuvre de la nouvelle évangélisation dans notre diocèse.
Donc on peut répondre à cette enquête sur le kérigme jusqu'au mois de juillet, je crois.
Absolument, jusqu'à la fin de l'année pastorale.
Et rappelons donc, famille en fête, le dimanche de Pentecôte, le dimanche 27 mai, c'est de 10h à 17h. Tout le monde est bien sûr le bienvenu. Alors, Monseigneur Haillé, en conclusion, nous sommes dans le mois de mai. La dévotion mariale pour les chrétiens et les catholiques est importante. Vous comptez consacrer notre diocèse à la Vierge Marie. C'est le final de votre lettre pastorale. Alors, en ce mois de mai, peut-être un mot sur la Vierge Marie.
Oui, j'espère bien, comme le Concile Vatican II l'a rappelé dans cette constitution sur l'Église, Lumen Gentium, dans son chapitre 8, son dernier chapitre, la Vierge Marie a une place tout à fait particulière dans l'histoire du salut, et donc dans la mission de l'Église, parce qu'à travers l'Église, c'est l'histoire du salut qui continue et qui rejoint nos générations d'aujourd'hui. Et c'est vrai que je souhaite consacrer le diocèse à la Vierge Marie, j'espère au terme de cette année de la foi, ce serait un beau geste qui conclurait cette année de, du 50e anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II. Vous savez d'ailleurs que c'est au Concile Vatican II que le pape Paul VI a déclaré Marie mère de l'Église. Et je crois que c'est aussi en marge du procès de béatification du père Louis-Édouard Sestac. Et j'en profite pour dire que cette biographie nouvelle, qui remet pleinement la vie du père Sestac dans son contexte historique du XIXe siècle, vient d'être publiée aux éditions Arthège, la vie donc de Louis-Édouard Sestac par Yves Chiron, commande que nous avons faite conjointement avec les servantes de Marie. Et donc c'est aussi l'occasion de promouvoir cette belle figure dont le charisme marial était si important.
Merci beaucoup Monseigneur Marc Caillé. Nous vous retrouverons au mois de juin, juste avant les vacances d'été. Et merci aussi à Violaine Ricourt-Dumas et à tous les auditeurs de Radio Présence Lourdes-Pyrénées et de Radio La Pourdire à Thiers de nous avoir suivis. Merci à tous.
Merci.